Merci Natacha pour ce témoignage qui nous rappelle encore, qui nous montre encore ce grand Dieu, ce grand Sauveur qui transforme des vies. C'est pas juste changer des vies, c'est pas juste changer des habitudes ou des petites pensées. Il transforme complètement des êtres humains et il les fait passer de la mort à la vie. Et c'est ce Dieu puissant que nous célébrons ce matin, et c'est autour de sa parole que nous voulons nous asseoir pour que, au travers de sa grâce qu'il nous a donnée en Christ et au travers de la parole qu'il nous donne par son esprit, il puisse aussi nous transformer, puisque nous sommes aussi dans ce chemin de transformation. Et nous allons donc nous arrêter dans la parole de Dieu ce matin. Nous allons faire encore une fois une parenthèse par rapport au thème de la maturité chrétienne qu'on avait commencé. Donc la dernière fois, on avait déjà fait une parenthèse. Aujourd'hui, c'est encore une parenthèse. Et ensuite, on continuera. Et ce matin, nous allons lire un texte insolite dans la Bible. Avez-vous déjà lu des textes insolites dans la Bible? Oui. Francis en a déjà lu des centaines. Hein. Surtout que tu connais la Bible par cœur. Pas, non, c'est pas vrai. Mais aujourd'hui, nous allons lire un texte insolite, un texte incroyable. Mais pas incroyable par la beauté, incroyable parce que tellement lamentable. Nous allons lire dans le livre des Juges, chapitre 17. Juges, chapitre 17. Juges, chapitre 17, donc le livre des Juges, il suit le livre de Josué et il précède les livres de Samuel. Juges 17, tout le chapitre, voici ce qui est écrit. Dans la région montagneuse d'Éphraïm vivait un homme nommé Mica. Il déclara à sa mère, « Tu te souviens qu'on t'a volé 1100 pièces d'argent ?» et que tu as maudit le voleur en ma présence. Eh bien, c'est moi qui ai pris cet argent, il est chez moi. Que mon fils soit béni de l'Éternel, lui dit sa mère. Il rendit les 1100 pièces d'argent à sa mère qui dit, « Je consacre cet argent à l'Éternel en faveur de mon fils pour en faire une statue et une idole en métal fondu. Je vais donc te le rendre. » Le fils remit l'argent à sa mère qui en préleva 200 pièces pour les donner à un orfèvre. Celui-ci en fit une statue et une idole en métal fondu, qu'on plaça dans la maison de Mica. Ayant donc un lieu de culte, il fit une autre statue et des idoles domestiques, puis il établit prêtre l'un de ses fils. En ces temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qu'il jugeait bon. Or, il y avait un jeune lévite originaire de Bethléem en Juda, qui appartient à la tribu de Juda, il résidait là. Il avait quitté Bethléem pour aller s'établir là où il trouverait un domicile. En cours de route, il était arrivé dans la région montagneuse d'Éphraïm et jusqu'à la maison de Mica. « D'où viens-tu ? » lui demanda celui-ci. « Je suis un lévite, » répondit-il, « de Bethléem en Juda. Je suis en route pour m'établir là où je trouverai un endroit. »« Eh bien, » lui dit Mica, « reste donc chez moi. Tu me serviras de père et de prêtre. » Et je te donnerai 10 pièces d'argent par an, en plus du vêtement et de la nourriture. Le lévite entra à son service. Il accepta de rester chez cet homme qui le traita comme l'un de ses fils. Mica établit le lévite dans sa charge et le jeune homme devint donc son prêtre. Il logea dans sa propre maison. Mica dit, « Maintenant, je suis certain que l'Éternel me fera du bien puisque j'ai pu avoir un lévite pour prêtre. » Amen. Et le thème de ce matin, c'est des remèdes contre l'inconscience. Des remèdes contre l'inconscience. On est à l'ère des smartphones, on en a pratiquement tous. et des smartphones, des appareils photo, des appareils numériques, on en a beaucoup et de toutes sortes. Et ce qui est particulier, c'est que dans l'ère dans laquelle on est aujourd'hui, on peut faire des photos tout le temps. On fait des photos de tout, on fait des photos de à tout instant, et on a dans les téléphones, dans les appareils photo, des galeries entières de photos. Avant, faire une photo, c'était compliqué. Il fallait aller chez quelqu'un, il fallait payer, etc., etc. Maintenant, faire une photo, c'est quelque chose, il n'y a rien de plus simple que de faire une photo. Et nous aimons les photos. C'est fantastique, les photos, on en a chez nous, on en a partout. Et ce qu'on aime dans les photos, c'est pas tellement la photo, c'est pas toujours uniquement la photo, c'est ce qu'elle évoque. C'est pas forcément l'instant pris de la photo, c'est ce que la photo évoque, c'est ce qu'elle nous dit, c'est ce à quoi elle nous fait penser, c'est l'émotion, l'atmosphère, la sensibilité, le contexte dans lequel la photo a été prise. Et une simple photo peut nous donner beaucoup d'informations sur qui est là, sur qu'est-ce qui se passe, sur l'atmosphère qu'il y a entre les gens. On aime les photos pour ce qu'elles évoquent. Si vous prenez une photo de famille et que vous la regardez, ben oui, vous aimez la photo, mais elle évoque quelque chose, cette photo. Elle évoque la famille, elle évoque le lien, elle évoque l'amour entre les uns et les autres. Une photo de famille où tout le monde sourit, ben voilà, ça manifeste la joie qu'il y a dans cette famille-là. Et au contraire, si vous prenez une photo de service, une photo avec des collègues et que tout le monde est crispé, bah vous avez aussi une idée de l'atmosphère, de l'ambiance qu'il doit y avoir au travail. On voit bien que personne n'a envie de sourire. On est bien obligé de le faire, alors on fait la photo. Mais on voit bien que les relations entre les gens sont tendues. Eh bien, le texte de Juges, chapitre 17, c'est un texte qu'il faut prendre aussi comme une photo. Comme une photo. Comme un instant pris de la vie du peuple d'Israël qui nous indique dans quel état, dans quelle atmosphère, dans quelle ambiance était le peuple d'Israël à cette époque-là. En réalité, le texte de Juges chapitre 17, il faut savoir que ce n'est pas, il ne suit pas l'ordre chronologique du livre. C'est un ajout. Donc on appelle ça un appendice. Donc il y a deux appendices dans le livre des Juges, Juges 17 et 18, et puis Juges 19 à 21, c'est un deuxième appendice. Un appendice qui a pour but de nous montrer quelle est l'atmosphère, quelle est la façon d'être, la façon de réfléchir, la façon de fonctionner qu'il y a dans le peuple d'Israël à cette époque-là. Et en particulier, l'objectif est de nous montrer l'état de déchéance morale et spirituelle du peuple. De nous montrer à quel point le peuple était égaré, à quel point la spiritualité s'était envolée, à quel point il n'y avait plus de moralité, et à quel point le peuple était loin de Dieu, étranger à sa loi et complètement déconnecté des réalités spirituelles. Une photo, un moment qui évoque l'atmosphère du peuple d'Israël, l'état d'esprit, la relation avec Dieu du peuple d'Israël à cette époque-là. Un peuple qui est dans une complète déchéance morale et spirituelle. Et dans ce tableau, dans cette photo, on a trois personnes. Une mère inconsciente, un fils inconscient et un jeune lévite inconscient. Bref, une belle brochette d'inconscients, des gens qui sont complètement à côté de la plaque et qui sont égarés par rapport à la loi de Dieu. Premièrement, la mère, si on prend la mère. Premièrement, vous avez vu que dans le texte, la mère reçoit une confession de son fils qui lui dit « L'argent que tu cherchais, c'est moi qui l'ai volé. » Et la mère répond « Béni soit mon fils. » Alors, il y a une explication qu'on peut prendre, c'est qu'elle essaye d'enlever la malédiction qu'elle a donnée avant, puisqu'elle a donné une malédiction sur le voleur et que maintenant qu'elle sait que c'est son fils, elle essaye d'enlever la malédiction. Mais malgré tout, ça sonne quand même un peu bizarre. « Béni soit mon fils. » Jusque-là, on peut se dire « Ben, c'est pas tant que ça, ça va encore. » Mais on sent quand même une incohérence dans ces paroles-là. Ça sonne bizarre. « Béni soit mon fils. » Deuxièmement, cette mère, cette femme, alors qu'elle reçoit l'argent de son fils, elle décide d'honorer l'Éternel. Donc, mettez-vous bien dans la tête. Elle décide d'honorer l'Éternel en faisant quelque chose de complètement contraire à la loi de Dieu. Elle dit, pour honorer l'Éternel, nous allons faire une statue et une idole. Ça, c'est ce qu'elle dit. Avec cet argent-là, nous, nous allons faire une statue et nous allons faire une idole pour honorer l'Éternel. C'est-à-dire le béaba de la foi. C'est les premiers commandements des 10 commandements. Tout le monde le sait, même le plus petit des Israélites sait bien que tout ce que Dieu déteste, ce sont les statues et les idoles. Et cette mère-là, non, elle se dit, ah, on a de l'argent, ben c'est pas mal, on va faire une statue, une idole pour faire plaisir à Dieu. Le béaba de la foi, elle ne semble pas l'avoir compris du tout. Troisièmement, cette femme qui reçoit l'argent, elle décide de consacrer cet argent à l'Éternel, elle le dit, nous allons consacrer cet argent à l'Éternel, et elle prélève 200 pièces pour faire l'offrande, pour faire la statue pour l'Éternel. Donc en fait, elle dit qu'elle consacre l'argent à l'Éternel, 11 000 pièces, mais finalement, il n'y a que 200 pièces d'argent qu'elle met pour faire la fameuse statue pour l'Éternel, et elle garde le reste pour elle en fait. Ça nous fait un petit peu penser à Ananias et Saphira. On consacre cet argent-là à l'Éternel, mais bon, malgré tout, on garde une bonne partie pour soi. Quelle drôle de façon de consacrer de l'argent à l'Éternel. Une mère inconsciente. Nous allons faire une statue et une idole pour plaire à l'Éternel. Deuxièmement, le fils de la mère. Comme on dit que l'arbre tombe, le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre, ça se constate ici. Le fils, en plus d'avoir été complètement malhonnête, puisqu'il faut se rendre compte qu'il a violé 2 commandements en même temps, non seulement il a volé, mais en plus il a volé sa mère. Donc, non seulement il viole le commandement d'honorer ses parents, de respecter ses parents, et en plus, il vole. Donc déjà, on voit bien que c'est pas quelqu'un de tout à fait réglo, il en rajoute, et il viole 2 commandements en même temps. Mais il va plus loin, ce fils-là. Il va jusqu'à créer un lieu de culte dans sa maison. Comme ça. Alors qu'on sait qu'à l'époque, Dieu a choisi un lieu de culte à Silo et que c'est là qu'il veut être adoré par le peuple. Et Dieu ne veut pas d'autre autel, il ne veut pas d'autre lieu d'adoration. Il veut un seul lieu à Silo. Eh bien non, ce fils-là se dit, avec cette statue que ma mère m'a envoyé créer, avec ces idoles que nous avons faites pour honorer l'Éternel, je vais faire dans ma maison un sanctuaire, un lieu de culte, et il nomme un de ses fils pour devenir le prêtre de ce faux culte. Il faut savoir que c'est vraiment quelque chose de complètement à côté de la loi. C'est comme si vous disiez, aujourd'hui c'est comme si vous disiez, je vais ouvrir une maison communale dans ma maison. Donc je vais dire, voilà, dans ma maison, maintenant c'est la commune chez moi. Vous prenez, c'est complètement stupide, on ne fait pas ça. On ne dit pas que chez soi, ça devient la commune, c'est la commune. Il y a une commune par endroit et chacun ne peut pas rajouter sa commune là où il veut. Mais là, si, ce fils-là, il décide de créer un culte, de rendre un culte à Dieu dans sa maison et il nomme un de ses fils comme étant prêtre, alors que ce fils n'a absolument pas les conditions pour être prêtre, puisqu'il faut être descendant d'Aaron, ce qu'il n'est pas. Et donc il nomme son fils, il met la statue et il dit, ben maintenant, on va adorer Dieu dans ma maison et ce sera très bien comme ça. Et puis, troisième personnage de ce texte, le jeune Lévite. Le jeune Lévite qui est en fait un monsieur, un jeune homme qui marchait, qui allait, et puis alors qu'il marchait, il rencontre le jeune homme qui lui dit, « Ah, où est-ce que tu vas ?» Il dit, ben, je ne sais pas, je marchais, je trouve un endroit pour m'installer. « Ah, ben écoute, viens, tu vas venir dans ma maison. » Et tu vas être le prêtre de mon culte, de mon faux culte, tu vas venir, et c'est toi le prêtre. Et ce jeune Lévite, qui connaît la loi de Dieu, qui sait bien que Dieu ne tolère pas les statues, ne tolère pas les idoles, ne tolère pas les autres lieux de culte, eh bien tout bonnement, il se laisse emporter par le vent, et il va dans cette maison pour devenir le prêtre de cette idole, de ce faux Dieu. Il faut savoir que les jeunes Lévites, à cette époque-là, avaient des villes en particulier dans lesquelles ils vivaient. Les Lévites ne vivaient pas partout, ils avaient des lieux en particulier qui leur étaient réservés parce qu'ils avaient un patrimoine spécial et donc ils devaient rester dans ces lieux-là. En d'autres termes, ce jeune Lévite, il n'a absolument rien à faire là. Il n'a rien à faire dans un lieu, il s'assied comme ça, il passe dans la rue, on lui dit « Ah, viens, il s'installe là et il vit sa vie là. » Et puis, comble du comble, le fils, vous voyez bien au dernier verset, au verset 13, alors qu'il a installé un prêtre inadapté dans le poste, un prêtre qui n'a rien à faire là, il fait preuve d'une totale inconscience une dernière fois, parce qu'il utilise le nom de Dieu et de l'Alliance alors qu'il est en train de désobéir. Il vient de désobéir, il vient de commettre quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, et il termine en disant « Maintenant, je suis certain que l'Éternel me fera du bien, puisque j'ai pu avoir un Lévite pour prêtre. Je suis sûr que l'Éternel me fera du bien. Je viens de faire une statue, je viens de faire une idole, je viens de violer les commandements de l'Éternel. J'ai appelé un Lévite comme ça, qui n'a rien à faire là, pour créer un culte dans ma maison. Je suis sûr que l'Éternel me fera du bien, dit-il. » À eux trois, ces trois personnages, dans cette photo, avec leur totale inconscience, ils ont réussi à introduire un nouveau culte, un culte idolâtre dans le peuple d'Israël. Et si on lit les chapitres d'après, en particulier le chapitre 18, on se rend compte que les déviations qui vont en résulter sont très graves parce qu'en fait, tout le peuple, toute la tribu de Dan va commencer à aller adorer là-bas. Donc ils ne vont pas juste faire ça pour eux, pour leur famille. Après l'avoir fait pour leur famille, le peuple d'Israël, et en particulier la tribu de Dan, va commencer à entrer dans un nouveau culte, dans un culte idolâtre, au travers de cette création de ces trois inconscients. Et pire du pire, comme ça vous le saurez si vous ne lisez pas le chapitre 18, c'est que à la fin, ce culte commence à avoir de l'ampleur, toute la tribu commence à aller adorer là-bas, personne n'a le discernement de se rendre compte que ça ne plaît pas à Dieu, et alors ils vont établir comme prêtre dans ce lieu de culte, qui ça ? Le petit-fils de Moïse, Jonathan. Le petit-fils de Moïse, c'est-à-dire Moïse a eu un fils, et ce fils a eu un fils, le petit-fils de Moïse, c'est lui qui va devenir en finalité le prêtre de ce culte complètement idolâtre. Complètement inconscient. Cette photo, elle nous montre qu'à cette époque-là, le peuple d'Israël avait perdu tout repère spirituel. Ils avaient perdu tout repère, ils étaient complètement perdus, complètement perdus. Ils avaient oublié les valeurs de Dieu, ils avaient oublié la parole de Dieu, ils avaient oublié les principes fondamentaux de l'Écriture, ils étaient sans repère. Et finalement, ils faisaient des choix comme ça, à gauche, à droite, elle crée une statue dans sa maison, un autre vient, complètement inconscient, complètement oublié qui est Dieu, complètement oublié quelle est la volonté de Dieu. En Belgique, on dirait, ils couraient comme des poules sans tête. Voilà, ils allaient à gauche, à droite, sans plus comprendre, sans réfléchir, sans savoir quelle était la parole de Dieu. Le peuple à cette époque-là, le peuple d'Israël, n'avait plus de repères, avait de fausses convictions. Vous voyez avec quelles convictions ils sont en train de parler. Il est certain que Dieu va le bénir alors qu'il vient de désobéir. Il en est convaincu. Il se dit, je suis sûr que l'Éternel me fera du bien. Des fausses convictions, des faux repères, pas de connaissance de Dieu, pas de conscience de Dieu, pas de connaissance de la parole de Dieu, pas de connaissance de ses commandements. Le peuple est égaré, le peuple est perdu, le peuple n'a plus de repères. Et quand on n'a plus de repères, on va à gauche, à droite, on fait ce qu'on pense qu'on doit faire, mais on est complètement à côté de la plaque. Évidemment, ce texte nous parle, nous fait penser à l'état de ce monde d'aujourd'hui, ce monde qui vit sans repères, qui vit sans Dieu, qui vit sans la parole de Dieu, sans les valeurs de Dieu. La Bible dit, ils se vantent d'être sages, mais ils sont fous. Ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images. Et on connaît aussi le texte de 2 Timothée qui dit « Dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hontains, plus de repères. » Plus de repères. Un peuple complètement égaré. Alors évidemment, ça nous parle du peuple d'Israël. Ça nous parle de notre monde aujourd'hui. Et puis, en finalité, ça nous parle de nous. Ça nous parle de nous et du danger qu'il peut y avoir pour chacun d'entre nous, à titre personnel, à titre d'église, de ne plus avoir de repères, d'être perdu, plus de valeur, plus de connaissance de Dieu et de courir à gauche et à droite comme des poules sans tête, comme des poules sans tête, sans plus avoir dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos têtes, la volonté de Dieu, le plan de Dieu, sa grâce, sa bonté et ce qu'il veut faire. Et le problème, encore une fois, c'est qu'ils étaient dans l'égarement, mais convaincus, convaincu que Dieu les bénirait comme ça. Des remèdes contre l'inconscience. On va avoir trois ce matin, tout simplement. Premièrement, quand on lit le texte, on se rend compte que si ils vivent dans cette inconscience, ce n'est pas en complète méconnaissance de Dieu, puisque à plusieurs reprises, on peut le compter, deux, trois fois dans le texte, il parle de l'Éternel. Nous allons faire ceci pour honorer l'Éternel. Je suis sûr que l'Éternel va me faire du bien. Ils étaient encore dans une dynamique où ils parlaient de Dieu. Ils n'avaient pas oublié Dieu. Ils savaient que Dieu existait, ils savaient qu'il était. Ils prononçaient son nom quand ils faisaient des choses, mais quand ils disaient l'Éternel, ça avait perdu toute sa consistance. Ils disaient l'Éternel, mais ils ne savaient plus qui il était. Ils ne connaissaient pas sa volonté, ils ne connaissaient pas son plan, ils n'avaient pas d'idée de ce que c'était, comme une coquille vide. On dit l'Éternel, mais on ne le connaît pas. On ne connaît pas sa nature, on ne connaît pas ses attributs, on ne le connaît pas de façon personnelle, et dire l'Éternel n'a pas d'impact sur nous. On pourrait dire, en quelque sorte, ces gens-là, cette photo-là, il n'y a pas qu'eux, il y a tous les autres derrière, ils avaient perdu la conscience de Dieu. Ils avaient perdu la conscience de qui est Dieu. Un premier remède contre l'inconscience, être conscient de qui est Dieu. Être conscient de qui est Dieu. Ne plus avoir de conscience de qui est Dieu est le premier pas pour se conduire de façon inconsciente. Quand j'oublie qui est Dieu dans ma vie, quand j'oublie qui est Dieu pour moi, quand j'oublie les attributs de Dieu, quand j'oublie la nature de Dieu, c'est là que je commence à me conduire de façon inconsciente. Le premier repère que je perds, c'est lorsque j'oublie qui est Dieu. Et la Bible nous donne tellement, tellement de renseignements sur qui est Dieu, sur sa nature, ses attributs, sur qui il est. Et nous avons besoin d'être des hommes et des femmes qui vivent des vies dans lesquelles ils sont conscients de qui est Dieu. Conscients de qui est Dieu. Et la Bible nous donne énormément de noms, énormément d'attributs de Dieu afin que nous puissions le connaître, afin que nous puissions le connaître tel qu'il est. Et on en a chanté tout à l'heure dans le chant 102, dans lequel on dit Adonai, Adonai Shama, Adonai Jireh, tous des noms qui nous qualifient, qui qualifient Dieu et qui nous permettent de ne pas perdre conscience de qui il est. On peut prononcer son nom, dire l'Éternel, ils l'ont fait, et être dans l'erreur, parce que c'est un nom qui avait perdu sa substance. Ça n'évoquait plus rien pour eux, ça n'avait plus de valeur pour eux. C'était juste l'Éternel. Et nous aussi, on peut être comme ça. On peut dire Dieu, on peut le chanter, on peut lire des versets, mais en perdant la conscience de qui est Dieu. Notre Dieu. Notre Dieu. Oui, la Bible nous dit qu'il est Adonai, il est le Seigneur, il est l'Éternel. La Bible nous dit qu'il est Elolam, le Dieu d'éternité, le Dieu de l'éternité, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, qui est en dehors du temps, qui est en dehors de l'espace. Et qui a une raison d'être par lui-même. Il existe par lui-même, sans besoin de personne. La Bible nous dit qu'il est El Elyon, le Dieu très haut, le Dieu très haut. El Roi, le Dieu qui me voit. El Roi, le Dieu qui me voit. Je peux me rappeler dans ma vie que ce Dieu est le Dieu qui me voit. Le Dieu qui me voit, le Dieu qui voit ma détresse, le Dieu qui voit mes pleurs, le Dieu qui voit mes difficultés, le Dieu qui voit mes luttes. Que je n'oublie pas dans ma vie que ce Dieu est le Dieu qui me voit. El Olam, on l'a chanté, El Givor, le Dieu puissant, le Dieu puissant. On l'appelle aussi Adonai Jireh, l'Éternel pourvoira, le Dieu qui pourvoit à nos besoins. Adonai Jireh. Adonai Rapha, l'Éternel qui guérit, l'Éternel qui me guérit. Adonai Nissi, l'Éternel ma bannière, ma victoire, ma victoire. Quand est-ce que je deviens inconscient? Quand j'oublie qui est Dieu? Quand la personne de Dieu n'a plus cet impact au plus profond de mon cœur? Quand je me déconnecte de qui est le Dieu devant lequel je me trouve? Qui est le Dieu que je prie? Qui est le Dieu que j'adore? Qui est le Dieu dont je parle? Quand j'oublie qui il est, je deviens inconscient. Je deviens inconscient. Gino et moi, on est des inquiets de la vie. Hein, c'est vrai, Gino. On est toujours stressé, on est toujours anxieux. Pourquoi est-ce qu'on est toujours anxieux, nous deux? Parce que parfois, on oublie qui est Dieu. On oublie qu'il est le Dieu puissant, qu'il tient toutes choses dans ses mains, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui prévoit. On l'oublie. Alors on devient inconscient parce qu'on pense qu'on doit gérer la vie nous-mêmes. On oublie qui est Dieu. Et le chrétien qui oublie Dieu, qui oublie qui est Dieu, il se désintègre. Et il commence à courir à gauche et à droite sans savoir qui est ce Dieu. L'Éternel est mon berger. Adonai Roi, Adonai Shalom, l'Éternel ma paix, Adonai Tzidkenu, l'Éternel ma justice. Celui qui est ma justice. On l'appelle aussi Adonai Tzabaoth, l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, l'Éternel qui combat pour moi. Il combat pour moi. Je n'ai pas besoin de combattre, d'attaquer, parce qu'il est l'Éternel qui combat pour moi. El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant. Notre vie doit être marquée de qui est Dieu. De qui est Dieu. Ça doit être le point de mire de notre vie, le point de mire de nos pensées, le point de mire de notre Église. Et c'est un repère puissant dans notre vie de ne jamais oublier qui est Dieu. Et lorsqu'on n'oublie pas qui est Dieu, ça nous pousse à l'adoration, ça nous pousse à la louange, ça nous pousse à la célébration, ça nous pousse à l'exaltation. Et ça nous permet de rester conscient, de rester conscient. Tant de fois dans nos vies où on peut être inconscient, inconscient, inconscient. Et aller à gauche, à droite sans savoir. Parce qu'on oublie qui est Dieu. Parce qu'on oublie la parole de Dieu, parce qu'on oublie les principes de Dieu. Et alors là, on devient inconscient. Mais il y a quelque temps, je discutais avec un chrétien, une chrétienne qui devait prendre une décision grave dans sa vie. Une décision grave dans sa vie, décision importante. Vraiment une décision, il y a des décisions dans la vie qui sont des décisions graves, importantes, sensibles. Et alors je discute avec elle et je lui demande, et donc, ça va, tu en as parlé aux anciens de ton église? Ah non, 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 non. T'en as parlé à ton pasteur? Ah non, 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 non. Mais j'ai discuté avec un frère de passage, il était là, il était venu, j'ai discuté avec lui, il était d'accord, donc je me suis dit, ça va aller comme ça. Inconscient. Inconscient. On prend des décisions comme ça, on oublie. On oublie la parole de Dieu, on oublie les principes de Dieu. On prend des décisions comme ça, comme des poules sans tête. Soit parce qu'on oublie qui est Dieu, on oublie la parole de Dieu, on oublie sa grâce, on oublie sa faveur. On peut aussi oublier dans le sens négatif, mais on peut aussi oublier dans le sens positif. On peut être parfois des gens qui s'autoflagellent. Combien de chrétiens ne s'autoflagellent pas? Tant et tant qui s'autoflagellent pour leurs erreurs, pour leur lutte, pour ce qui ne va pas dans leur vie, plutôt que d'accueillir le Dieu de grâce. On oublie qu'il est le Dieu de grâce. On oublie qu'il est le Dieu de miséricorde. Alors on se dit, je dois me flageller, je dois me faire du mal à moi-même, et ça ira mieux. Bon, ça, c'est dans un sens. Et puis, on peut oublier que Dieu est le Dieu saint. Dieu est le Dieu. Je connaissais un serviteur de Dieu, quand il disait cette phrase-là, c'était tellement... Quand il disait, Dieu est saint. C'était, je ne sais pas ce qu'il avait en lui, mais quand il disait, Dieu est saint, c'est comme si tout à coup, on se rendait compte. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis complètement inconscient, quoi. Je suis en train d'agir n'importe comment. Je suis en train de... Dieu est saint. Est-ce qu'on se rend compte de ce que ça veut dire, ça? La Bible dit qu'il est saint, saint, saint. Et c'est ce qu'on répète au ciel sans arrêt. Et le fait que Dieu est saint, ça nous appelle à la sainteté, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et en même temps, Dieu est grâce, Dieu est miséricorde, et je ne dois pas l'oublier non plus. Dieu est ma justice, Dieu est ici. Parfois, on oublie que Dieu est ici. On oublie qu'il est notre justice, on oublie qu'il est le Dieu puissant, tout puissant. Premier remède contre l'inconscience, n'oublie pas qui est Dieu. N'oublie pas qui est Dieu. N'oublie pas tout ce qu'il est pour toi, toute la grâce qu'il a pour toi. Et n'oublie pas en même temps sa grandeur, sa sainteté, sa majesté. Ne deviens pas une poule sans tête. Qui court à gauche et à droite, ne sachant pas, sans repère, sans valeur, sans principe, sans les principes de Dieu. Mais que nos vies puissent être tout le temps connectées à cette réalité de qui est Dieu. Et c'est pour ça que l'adoration est importante dans l'Église, dans nos vies. Parce que dans l'adoration, nous nous maintenons dans la conscience de qui est Dieu. Dans la lecture de la parole de Dieu, dans la contemplation, nous restons en contact permanent avec tous les attributs de Dieu. N'oublions pas qui est Dieu. On peut avoir parfois des gens comme ça, avec qui on est très familier. On est tellement familier avec eux qu'à un moment donné, on oublie qui ils sont. Vous voyez ce que je veux dire? Ça arrive souvent. Dans certains milieux, on appelle ça le péché de familiarité, justement. C'est vraiment quelque chose de ça peut se passer dans nos vies de tous les jours. C'est des gens avec qui on est tellement familier qu'à un moment donné, on se déconnecte de qui ils sont. Vous voyez? Vous pouvez avoir un patron, par exemple. Un patron super sympa. Il est gentil, vous discutez avec lui, il blague, il vous tape sur le dos, vous lui tapez sur le dos, c'est marrant, etc. Et à un moment donné, vous oubliez que c'est le patron. Et vous commencez à faire des blagues et machin, mais oh. N'oublie pas que c'est le patron, hein. N'oublie pas qui c'est pour toi. On peut, en devenant familier avec des réalités, à un moment donné, on perd conscience de qui sont les gens. On est parfois à côté de gens d'importance, de valeur, et on oublie qui ils sont. Et c'est de la même chose avec Dieu. Nous pouvons oublier qui est Dieu. Moi, je connais bien mon frère Benoît. Je blague avec lui. Je lui frappe sur le dos. Je me moque de lui quand il arrive en retard. Mais je ne dois pas oublier qui il est. Je ne dois pas oublier la personne qu'il est. Je ne dois pas oublier qu'il est mon ancien et que je dois me soumettre à lui. Je ne dois pas l'oublier. Je ne dois pas oublier qui sont les gens qui sont autour de moi. Et de la même façon, nous ne devons pas oublier qui est Dieu pour nous. Dans les deux sens. Dans sa grâce, dans sa bonté, dans son amour, dans son pardon, dans sa miséricorde. Mais dans sa sainteté, dans sa justice aussi. N'oublions pas qui est Dieu. Vous savez que les Juifs portent même une kippa sur leur tête pour ne jamais oublier, pour avoir toujours conscience que Dieu me regarde, que Dieu me voit, que Dieu est là, comme autorité au-dessus de ma tête. Une prière pour nous. Seigneur, que mon cœur reste conscient de qui tu es, que mon cœur n'oublie pas qui tu es, que mon cœur reste en adoration devant qui tu es, que mon cœur reste émerveillé devant qui tu es, que mon cœur reste en connexion, en adoration, en émerveillement devant toi, que mon cœur n'oublie pas qui tu es. Et que je ne vive pas en pleine déconnexion de qui tu es. Il disait dans ce texte-là, l'éternel, mais ça n'avait plus de substance. Et quand on dit que ton nom soit sanctifié dans le Notre Père, c'est ça que ça veut dire. Que ton nom soit saint dans ma vie, que ton nom soit respecté, que ton nom soit aimé, que ton nom ait de la valeur pour moi, que ta personne ait un impact dans ma vie et que je puisse respecter ton nom. Et alors évidemment, la connaissance de Dieu, elle est aussi liée, bien sûr, à la connaissance des enseignements de Dieu, des commandements de Dieu. Celui qui m'aime gardera mes commandements, dit Jésus. Ça veut dire aussi que dans ce texte, oui, ils avaient plus conscience de qui est Dieu, mais s'accroche aussi à cela plus de conscience des principes de Dieu, des commandements de Dieu, de la parole de Dieu. Nous avons besoin aussi de ne pas oublier ce que Dieu me commande. Oubliez ce que Dieu nous commande. À l'école du dimanche, ici, il y a une petite affichette qu'ils ont fait sur les 10 commandements vulgarisés. Donc, c'est les 10 commandements, mais qui sont écrits de façon pour des enfants, quoi. Hein. Alors, c'est écrit ne pas être jaloux, ne pas être envieux, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, être fidèle à mon conjoint, se rappeler du jour du repos. Mais tant de petits commandements qui doivent être des repères pour nous. Quand Dieu nous donne sa parole, ce n'est pas pour nous écraser, ce n'est pas pour nous faire souffrir, ce n'est pas pour nous faire peur, mais c'est pour nous donner des repères. Comme chrétiens, nous négligeons la puissance de la parole de Dieu. Et nous ne prenons pas conscience quel malheur c'est de vivre sans repères. Les gens du monde, comme dit la Bible, qui ne connaissent pas leur droite de leur gauche. Pas de repère, mais nous avons la parole de Dieu, sa vérité, pour nous conduire, pour nous donner des repères. Imaginez comment vit quelqu'un qui tient des maisons closes. Pas de repère, Pas de repère dans la vie relationnelle, dans la vie affective, dans la vie sexuelle. Pas de repère. Et le fait de vivre sans repère, ça nous prend ce que nous sommes, ça nous prend notre dignité, ça nous prend notre valeur. Mais nous avons la parole de Dieu qui nous donne des repères. Soyons reconnaissants pour les commandements de Dieu et ne soyons pas écrasés et dire « Oh oui, tant de commandements, et ne fais pas ci, et ne fais pas ça. » C'est une grâce d'avoir des commandements de Dieu. Quand on vit dans le monde et qu'à un moment donné, vous savez bien, les enfants disent à leurs parents « Ouais, mais t'as pas vu, celui-là, il passe toute sa journée dehors, il court à gauche, à droite et moi, je peux jamais sortir. » Les enfants disent ça, les petits-enfants. Mais après quelques années, les enfants, quand ils ont 15, 16, 17, 18 ans, ils se rendent compte que ceux qui sont toujours dehors, à gauche, à droite, qui sont jamais cadrés, qui sont jamais enseignés, ils se rendent compte que quelle grâce j'ai eu d'avoir des parents qui m'ont dit « Tu restes ici aujourd'hui. » Voilà. Quelle grâce ! On oublie les valeurs de Dieu. Soyons reconnaissants pour les commandements de Dieu. Soyons reconnaissants pour les principes de Dieu. Soyons reconnaissants. C'est une grâce. Encore, il n'y a pas longtemps, je parlais avec une personne qui expliquait comment la vie du monde l'a rongée, l'a détruit de haut en bas. Parce que les commandements de Dieu sont bons pour nous. C'est ça qu'il faut croire. Les commandements de Dieu sont bons pour moi. Deuxièmement, quand on lit le texte de Juges, et les appendices en particulier, il y en a deux, je l'ai dit, le 17, le 18 et le 19 et les 21, ce sont les deux appendices du livre des Juges. Et on se rend compte, encore une fois, que ces textes ne suivent pas l'ordre chronologique. Ce sont comme des histoires qu'on a rajoutées à la suite du texte. Et alors, dans ces appendices, mais aussi dans tout le reste du texte, des juges, il y a une phrase qui revient sans cesse. Un refrain, comme on dit. Et on pense que c'est ce que l'auteur, conduit par le Saint-Esprit, voulait souligner. Il y a une phrase qui revient, et elle est dans ce chapitre que nous avons lu, au verset 6. « En ce temps-là, c'est ça le refrain, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qu'il jugeait bon. » Ça, c'est le refrain qui revient dans tout le livre des juges. Comme si l'auteur voulait nous montrer la nécessité qu'il y ait un roi en Israël. Et c'est tout à fait logique parce qu'en fait, après Juges, il y a 1 Samuel. Dans 1 Samuel, il y a l'institution du premier roi, puis du deuxième roi. Et puis, après 1 Samuel et 2 Samuel, il y a tout le livre des rois. Donc en fait, le livre des juges, c'est un petit peu un livre de transition entre le temps où il n'y avait pas de roi et le temps où il va y en avoir. Et l'auteur est en train de nous montrer comment c'est nécessaire parce que, comme il le dit, chacun faisait ce qu'il jugeait bon. C'est ça l'idée. Quand il n'y a pas de roi, mais vous avez un gars qui installe un sanctuaire dans sa maison. Mais imaginez-vous, Jean-Pierre qui dit à partir d'aujourd'hui, la commune de Gosselies, c'est chez moi, dans ma véranda. Bon, allez Jean-Pierre, sois sérieux. C'est pas chez toi la commune quand même. Si, c'est à partir d'aujourd'hui, amenez-moi les formulaires, je vais tout signer, j'ai des cachets, c'est chez moi la commune. On n'irait pas, on dirait, ben enfin Jean-Pierre, sois sérieux 2 minutes. T'auras encore plus de boulot que t'as maintenant, Jean-Pierre. Non, mais c'est pas chez lui la commune, c'est pas vrai. Voilà, quand il n'y a pas de roi, chacun fait ce qu'il juge bon. Et chacun fait n'importe quoi. Il souligne par là le besoin d'un roi. Sans roi, chacun fait ce qu'il est bon. C'est qu'il lui semble bon, chacun vit selon les penchants de son cœur, et dit Ésaïe, chacun suit sa propre voie. Vous connaissez ce texte d'Ésaïe 53 ? Chacun suivait sa propre voie. Voilà ce qui se passe quand on n'a pas de roi. Chacun suit sa propre voie. Et dans Juges, vous avez ici le chapitre 17 qui est une photo de comment est-ce que dans le peuple d'Israël, on suivait sa propre voie. Ce texte nous montre donc la nécessité d'un roi qui règne sur les humains. Et ici, dans le texte, ce seront des rois humains, mais des rois humains qui nous montrent, qui nous préfigurent le roi, le Messie, Jésus-Christ. L'homme sans roi devient ce que la Bible appelle l'homme livré à lui-même. L'homme livré à lui-même, c'est l'homme qui vit selon ses penchants, selon ses convoitises, c'est l'homme qui fait comme bon lui semble. Ce texte nous montre la nécessité d'un roi. Et pour nous, enfants de Dieu, ce texte sonne pour nous comme la nécessité que Christ règne en nous. Nécessité que Christ règne en nous, que Christ règne dans nos églises, que Christ règne dans nos familles, que Christ règne dans nos cœurs. Pour que nous ne marchions pas comme l'homme livré à lui-même, qui vit selon ses pensées, mais comme l'homme qui est renouvelé, régénéré et qui a revêtu le Christ. Nous avons besoin qu'il règne en nous. Benoît et moi, c'est comme ça qu'on se salue. On ne se dit pas bonjour, on dit qu'il règne en nous. C'est vrai, hein, Benoît ? Vous, vous dites bonjour, oh, parce que vous êtes... Nous, on ne dit pas bonjour, ça c'est pour les... Nous, on dit qu'il règne en nous. Parce que c'est ça notre prière, qu'il règne en nous. Qu'il règne en nous. Nous avons besoin de Jésus qui règne, pas un humain, si bien intentionné qu'il soit, mais Jésus qui règne en nous. Martin Luther, dans son commentaire du Notre Père, il dit « Seigneur, nous savons que ton règne s'établit de lui-même et sans le secours de nos prières, mais nous te demandons qu'il s'établisse en nous. » Nous te demandons que ton règne s'établisse en nous. Tant de chants dans « J'aime l'Éternel » qui ont ce thème-là, « Règne en moi, oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves. » On connaît aussi ce chant « Règne en moi, roi puissant, règne en moi. » On devrait chanter ce chant. Pourquoi est-ce qu'on ne chante pas ça? C'est ça la prière du chrétien. « Règne en moi, roi puissant, règne en moi. Maîtrise mon cœur, viens régner Seigneur, et que ta volonté soit faite à jamais. » On a besoin de ce règne. Et on a besoin de lui soumettre nos cœurs. Et on a aussi un chant qui dit « Soumets donc ton cœur à ce glorieux Sauveur. » Soumets ton cœur à ce glorieux Sauveur. Jésus, remplis-nous de toi. Tant et tant de chants qui nous appellent à laisser Christ régner en nous. Le contraire de la soumission à Christ, c'est l'indépendance. Ça, c'est le danger, l'indépendance. Vous voyez ces gens-là dans Juges 17? C'était des indépendants. Vous voyez, un indépendant, il n'a compte à rendre à personne. D'ailleurs, ils ne travaillent pas, les indépendants, c'est bien connu, parce qu'ils n'ont compte à rendre à personne. Vous ne saviez pas? Si, ils ne font rien. Ils font semblant, ils se lèvent le matin, ils cliquotent un petit peu pour donner l'impression, et puis ils vont se recoucher, les indépendants. Non, c'est pas vrai. Mais il y en a peut-être qui sont comme ça, on n'en sait rien. Mais c'est ça le danger, c'est de devenir un indépendant vis-à-vis de Dieu. Libre. Je veux être libre. La vraie liberté, elle est lorsque nous pouvons nous soumettre à Dieu. Est-ce que ma volonté est soumise à Dieu? Est-ce que mes affections, mes sentiments sont soumis à Dieu? Est-ce que mon temps est soumis à Dieu? Tant de choses encore à dire sur cette soumission. De toute façon, on peut le dire, hein, parce que j'ai remarqué que quand le frère Jacques Hudon est venu, vous n'avez rien dit, qu'il a dépassé depuis un quart d'heure. Il n'y a pas de raison que quand c'est moi, moi aussi, je suis désolé, je trouve ça honteux. C'est un visiteur et vous n'avez même pas bronché, vous n'avez rien dit. Et quand c'est moi, vous tirez la tronche jusque par terre. Donc je continue jusqu'au temps, ce sera fini. Non, c'est une blague. Je vais envoyer ça par email parce qu'on n'aura pas le temps de voir ça aujourd'hui. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Tant de choses encore à dire, mais restons-en là pour ce matin et prions ensemble pour que nous restions conscients de qui est Dieu et qu'il règne en nous. Seigneur, nous voulons te prier pour que, effectivement, tu nous aides à ne pas être des chrétiens inconscients. Seigneur, c'est ce texte que nous avons lu et qui nous parle à nous-mêmes de ce danger, Seigneur, de vivre dans l'inconscience, vivre dans l'inconscience de qui tu es, l'inconscience de ta gloire, de ta personne, de ta volonté, de tes commandements, Seigneur, nous voulons te demander de nous aider à être une église consciente, des chrétiens conscients, conscients de qui tu es, conscients de ta personne, conscients de ta gloire, de tes attributs, de ta puissance, de ce que tu es pour nous. Aide-nous, Seigneur, à toujours être conscients. Et dans les temps qui arrivent encore, avec la rentrée scolaire où les choses vont recommencer, aide-nous à ne pas perdre la conscience de qui tu es, que nous restions connectés à ta personne divine, glorieuse. Seigneur, nous te demandons que tu nous aides aussi à accepter ton règne en nous, pour que tu règnes sur nos cœurs, que tu règnes sur nos pensées, que tu règnes sur nos projets, que tu règnes sur nos opinions, que tu règnes sur nos sentiments, pour que, Seigneur, nous puissions avoir en nous le roi qui nous aide à marcher dans la vérité, dans la justice, dans l'amour. Seigneur, je voudrais te prier pour chaque personne ce matin. Aide-nous, aide chacun, chaque personne qui est venue dans ce lieu, à faire sien cette parole que tu nous donnes dans Juge, d'être des hommes et des femmes conscients de toi, en qui tu règnes. Aide chacun dans ses difficultés de vie, dans ses angoisses, dans ses peurs. Aide chacun à accueillir ton règne. Et que, Seigneur, ton règne en nous permette ta puissance en nous. Et que ta puissance aussi puisse se manifester en nous. Merci pour la vie de chacun. Merci pour ce culte. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ta fidélité. Amen.